y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Raison de la chose, nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour nous apparaissons, et vive la révolution. Au grand jour nous apparaissons, et vive la révolution.
Et ce n'est pas un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Assez, c'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros en sí, DJ B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza?
Bonsoir, vous êtes bien sur l'émission Langue de fronde, tous les deuxièmes lundis du mois, de 18h à 19h. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM.
Alors pour pas mal de personnes dont on fait partie, que ce soit des meufs, des queers, des personnes de classe populaire, des personnes racisées, etc., l'écriture, en fait, ça a longtemps été un médium ou un moyen d'expression qui n'était pas pour nous. Et on n'avait pas de voix, en fait, et pas d'endroit pour s'exprimer. Et on n'était pas invité à entrer en littérature. Et c'est souvent les mêmes qui ont pris la parole et qui ont façonné des imaginaires dont nous étions exclus. Et aujourd'hui, en fait, il nous paraît plus qu'important de proposer d'autres récits, que ce soit de nous-mêmes ou du monde, des récits qui proviennent de positions peu entendues, on va dire des comptes rendus alternatifs du monde. Et du coup, ce qu'on vous propose dans cette émission pendant une heure, c'est de... On va discuter autour de l'écriture, en fait, et on va tenter de voir quels sont les enjeux et les moyens de la réappropriation de l'écriture par et pour les personnes qui en ont longtemps été exclues. Et donc d'abord, écrire pour soi, en fait, comme une pratique d'empowerment. Et on parlera également, si on a le temps, de la question d'être lu, d'être publié, parce qu'on a aussi besoin, en tant que lectrice, en fait, de lire des histoires qui nous parlent, qui parlent de nous et qu'on aime.
Et donc pour tout ça, avec nous, on a en studio, on a la très heureuse d'accueillir Alexia et Marianne de l'atelier Langue de lutte. Fallait le faire quand même pour les langues de fronde.
C'est clair. Bonsoir.
Merci. Bonsoir à vous d'être venus. En studio, on a Olga.
Salut.
Gab.
Salut.
Cla.
Bonsoir.
Et en technique, donc moi-même Théo. Et en technique, on a un magnifique crew avec Léa, Guillemette, Chloé et Lucille. Et Marianne et Alexia de Langue de lutte.
Salut. Salut.
Alors... tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement qui vous êtes, qu'est-ce que c'est que cet atelier de vous faites, depuis combien de temps, tout ça?
Marianne et moi, Alexia, on est toutes les deux féministes, on a 31 et 34 ans. On aime écrire depuis longtemps et on s'est rencontrées dans un atelier d'écriture féministe éphémère qui était animé par Chloé Delhomme. C'est une écrivaine qui a écrit notamment « Les sorcières de la République ». Et voilà, on s'est rencontrés en mai 2017.
Ouais, en fait, on aime bien raconter cette histoire parce que c'est drôle. En fait, on ne se connaissait pas et on a commencé à parler après l'atelier. Et force de parler, on a fini par boire un verre. Et en fait, on parlait d'écriture et on était toutes les deux en train de réaliser que... en fait, il n'y avait pas vraiment d'atelier qui nous correspondait. On était là, ouais, tu connais ça, ouais, mais bon... enfin, à chaque fois, il y avait quelque chose qui nous dérangeait. Soit c'était trop cher, soit c'était trop sexiste, ou on ne se sentait pas à l'aise, etc. Donc, bon, au bout d'un moment, on s'est dit, si ça n'existe pas, on n'a qu'à le faire. Voilà, donc c'est comme ça que c'est né. Et donc, on a eu notre premier atelier, enfin, le temps de trouver un lieu. Le premier atelier, c'était en juillet 2017, donc il y a un peu plus d'un an. Et donc voilà, c'est un atelier d'écriture gratuit, en non-mixité, queer et féministe.
Dans quel lieu
Oui, bien sûr, c'est super important. Donc on a eu la chance d'avoir un lieu qui est la Mutinerie, qui est donc un bar lesbien et féministe, et qui accueille donc beaucoup d'ateliers. Et donc on est allé voir, et donc on a le lieu une fois par mois, donc voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance pour vous de cet atelier ? Pourquoi vous faites cet atelier en fait ?
Pourquoi ? Bah, alors déjà, un petit peu égoïstement, du coup c'était un peu pour nous au départ, parce qu'on cherchait un atelier, donc on s'est dit bon, on va le faire. Et puis bon, en fait, je pense qu'on avait toutes les deux un manque. On avait envie de s'engager aussi, voilà, d'allier notre passion l'écriture et aussi de militer. Hein. Enfin, c'est aussi une forme de, enfin, une façon de militer, de véhiculer un féminisme. Donc on le fait aussi pour les autres, pour la cause féministe, on va dire, parce que c'est vrai que il y avait pas vraiment, enfin on n'avait pas trouvé de lieu, donc on voulait créer ce lieu pour accueillir les personnes qui avaient besoin aussi de pouvoir écrire dans un lieu sorore et féministe, voilà.
Et du coup, enfin nous on se pose un peu la question de savoir en fait pourquoi c'est un enjeu en fait que les meufs, les queers se réapproprient l'écriture en fait, pourquoi c'est important de s'atteler à l'écriture. Alors, je sais pas, on a peut-être, je peux vous proposer qu'on lise des petits extraits d'autrices qui nous parlent de ça, et peut-être après on peut continuer sur cette question et réagir. Okay. Gab, tu veux nous lire un petit extrait de la grande Audrey Lorde ?
Alors moi, je vais vous lire un extrait d'Audrey Lorde, transformer le silence en paroles et en actes. Donc c'est un texte qu'elle a prononcé à l'oral, donc c'est une conférence en décembre 77 à Chicago. Lors d'une table ronde « Lesbienne et recherche littéraire ». Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé. Et ce, même au risque que ce soit éreinté par la critique et incompris. Je suis ici, debout, comme poète noire lesbienne, et tout cela prend un sens encore plus fort, parce que je suis toujours en vie alors que j'ai bien failli ne plus l'être. Et ce que j'ai le plus regretté, ce sont mes silences. De quoi avais-je donc eu si peur ? J'allais mourir tôt ou tard, que j'aie pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégée. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Quels sont les mots qui vous manquent encore ? Qu'avez-vous besoin de dire ? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres, jusqu'à vous rendre malade et à en crever en silence encore ? Transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. La raison du silence, ce sont nos propres peurs, peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore peur d'être repéré, peur du défi, de l'anéantissement. Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité, cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. Or, cette visibilité qui nous rend tellement vulnérables est la source de notre plus grande force. Car le système essaiera de vous réduire en poussière de toute façon, que vous parliez ou non. Nous pouvons nous asseoir dans un coin, muettes comme des tombes, pendant qu'on nous massacre, nous et nos sœurs, pendant qu'on défigure et qu'on détruit nos enfants, qu'on empoisonne notre terre. Nous pouvons nous terrer dans nos abris, muettes comme des carpes, mais nous n'en aurons pas moins peur. Si nous sommes toutes là aujourd'hui, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, nous partageons un même engagement envers le langage et le pouvoir des mots. C'est parce que nous sommes décidés à régénérer cette langue institutionnalisée contre nous. Et quand les paroles de femmes crient pour être entendues, nous devons, chacune, prendre la responsabilité de chercher ces paroles, de les lire, de les partager et d'en saisir la pertinence pour nos vies. Le fait que nous soyons ici ensemble et que je prononce ces paroles est une tentative de briser ce silence et de construire des ponts entre nos différences, car ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c'est le silence. Et tant de silences doivent être brisés.
Bon, ça va être un petit peu dur de rebondir après ça. Tu veux relire un extrait de suite ou alors...
Je lirai peut-être après, mais ouais. Est-ce que vous, ça vous inspire quelque chose, ce texte ? Est-ce que vous y voyez des liens avec votre démarche d'avoir voulu créer un atelier d'écriture, justement, par et pour des meufs et des queers ?
Oui, complètement. Bah, c'est un très beau texte. Et puis, le fait de briser le silence et de se réapproprier des mots et une voix, c'est un peu aussi vraiment ce qu'on a voulu faire. C'est vrai que les ateliers, c'est des moments qui sont très intenses. Alors, c'est pas non plus trop lourd, on peut rigoler aussi. Mais c'est vrai que bah, le fait que ce soit en non-mixité, déjà, ça aide à la libération de la parole. Les personnes... Enfin, on le répète à chaque début d'atelier. En fait, vu qu'on a créé cet atelier, ben on dit nos valeurs. Et nos valeurs, c'est vraiment la liberté, la bienveillance, voilà, d'être dans un espace safe et féministe. Et du coup, les personnes, en général, au fur et à mesure, reprennent l'espace. On dit toujours que c'est très libre. Donc, si les personnes n'ont pas envie de partager leur texte, elles ne sont pas obligées, mais en fait, au final, il y a pas mal de personnes qui partagent leurs textes et souvent, c'est une vraie façon de se réapproprier des mots, des sujets, qu'elles n'auraient pas forcément réussi à faire dans d'autres lieux, parfois. C'est plutôt... Ça nous parle, quoi.
Ouais. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, je voulais juste compléter en disant que souvent dans des ateliers où on avait pu écrire auparavant, avant de faire Langue de Lutte, il arrivait qu'on soit, nous, femmes, surreprésentées et pourtant qu'on prenne pas forcément la parole. Et c'est vrai que le fait que la lecture du texte ce soit pas contraint, que ce soit libre, ça permet de pas se mettre la pression. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent venir du coup sans stresser. Et aussi, en fait, en s'appropriant cet espace, quand on prend la parole, quand on se l'autorise, on se rend compte qu'en retour, on a une écoute bienveillante. Et ça, c'est assez positif parce que nous, on ne fait pas d'enseignement, on ne fait pas de retour sur ce qui est écrit, on ne fait pas de critique et pas non plus d'applaudissements. C'est assez neutre comme retour. Donc ça peut être un peu perturbant, mais c'est aussi rassurant de se dire « Ok, en fait, j'ai parlé et ça s'est bien passé et les gens m'ont écouté. Je vais peut-être recommencer. » Tu vois ?
Oui, je vois tout à fait. Enfin, moi, j'ai eu aussi à un moment donné besoin de trouver des espaces ou même de les créer moi-même parce qu'il n'y en avait pas forcément d'endroits où tu peux t'exprimer et t'essayer à l'écriture parce que comme on le dit un peu depuis le début de l'émission, c'est un média ou quelque chose dont on a été privé ou dont on a été exclu, on a l'impression que c'est pas pour nous et du coup trouver des endroits pour le faire, des gens avec qui le faire et des moyens de se lancer là-dedans. C'est votre démarche quoi, et ça me paraît assez important. Je voulais juste vous lire un tout petit extrait d'Hélène Cixous qui va dans ce sens. Donc c'est dans Le Rire de la Méduse, écrit en 1975. C'était il y a longtemps, mais pas tant que ça. Et je le trouve très beau parce que c'est un extrait qui me parle beaucoup. Et moi aussi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien montré. Je n'ai pas ouvert la bouche. Je n'ai pas repeint ma moitié du monde. J'ai eu honte. J'ai eu peur et j'ai bouffé ma honte et ma peur. Et pourquoi n'écris-tu pas ? Écris ! L'écriture est pour toi. Tu es pour toi. Ton corps est à toi. Prends-le. Je sais pourquoi tu n'as pas écrit et pourquoi je n'ai pas écrit avant l'âge de 27 ans. Parce que l'écriture, c'est à la fois le trop haut, le trop grand pour toi. C'est réservé aux grands, c'est-à-dire aux grands hommes. C'est de la bêtise. D'ailleurs, tu as un peu écrit, mais en cachette. Et ce n'était pas bon parce que c'était en cachette et que tu te punissais d'écrire, que tu n'allais pas jusqu'au bout. Écris. Que nul ne te retienne, que rien ne t'arrête, ni homme ni imbécile machine capitaliste où les maisons d'édition sont les rusés et obséquieux relais des impératifs d'une économie qui fonctionne contre nous et sur notre dos. Bon voilà, il y a Gab qui s'étouffe devant la force de ce texte. Ça va aller ? Ce que je trouve très fort, que ce soit dans ce texte-là ou dans les autres textes lus et même les textes qu'on ne va pas forcément présenter aujourd'hui, c'est cette espèce de truc qui revient assez souvent que de se saisir de l'écriture.
Oh. Moi, je trouve ça intéressant dans le texte, je suis désolée, je te coupe, on voit quand même ce point que tu as soulevé, Alexia, tout à l'heure, que quand même les femmes sont très présentes dans l'écriture, que dans les ateliers d'écriture, les femmes sont souvent majoritaires, mais qu'il y a ce côté un peu, on reste dans notre petit coin, on reste silencieuse, on le fait, mais on n'ose pas trop, on tient peut-être un journal de bord, mais voilà, que c'est difficile après de passer l'étape du collectif, d'ouvrir la voie aussi, vous dites, de lire son texte, c'est difficile de le faire en public et que c'est un pas en tout cas.
Puis il y a dans le texte que tu as lu, Olga, de Hélène Cixous, il y a aussi cette question d'écrire en cachette. Et enfin, ce truc, toi tu disais journal de bord ou journal intime, ou cette question aussi adolescente de d'écrire en rentrant dans sa chambre. La question de l'intime qui est vraiment la question aussi très associée à la sociabilisation féminine, quoi, de, d'écrire dans sa chambre pour soi. Et alors après, ça a aussi une valeur en soi, mais qui ne passe pas le pas de la chambre, quoi.
Ursula Le Guin disait dans un de ses livres, elle disait en fait qu'elle elle avait tellement écrit, enfin elle a beaucoup écrit depuis toute petite, et elle disait à un moment juste il fallait que je commence à passer l'étape d'après, et que je commence à publier, et à écrire des livres, et c'est plus tard en fait qu'elle s'est dit là c'est possible, c'est en lisant certaines œuvres de science-fiction, elle s'est dit mais en fait c'est possible, moi aussi je peux peut-être le faire, mais elle avait déjà écrit énormément avant.
Peut-être qu'avant de passer à la suite et que vous nous parliez un peu plus de comment se passe un atelier, on peut écouter une petite musique, ça vous va ? Enfin, une musique, petite. Je dis ça, en fait, vous allez en prendre plein la gueule parce que vous écoutez Kazé, suis ma plume.
Oh, les mecs, va falloir suivre ma plume attentivement. Capter la compétence de la rime. Regardez le style de la banlieue nord. S'exprimer encore, hein ? Écoute ça, suis ma plume. S'il te plaît, suis ma plume. Ma plume, mon diplôme, un blâme, un problème. Un suprême programme haut de gamme qui engraine, qui entraîne des bris de crâne, des vitrines, crimes qui se trament, nitroglycérine. Premier album, je dégomme, sors des abîmes. J'amène œdème et rétame des ridimes. J'étonne, on m'acclame, je donne mon mot d'ordre et mon modem. Qui dame des dômes sur le macadam. Des tonnes d'ultimatum dans mes thèmes. Hématome dans mes tomes à l'antenne et cartonne le système. Des grands chelems pour victimes des HLM. Vu que Paname est tel Gotham, tam tam et cocktail. Ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Emblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Emblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, j'en mets partout, t'es averti. Vas-y, barre-toi, je vire tout et suis en liberté. Allez, tire-toi. C'est mon carton, mon cartel est partant. De sortie pour apporter un bordel important. Il est temps de jarter, on va tarter. Sans vertu ni mot courtois, on va t'écarter. Fais-le pour toi, en retard tu iras par terre en martyr. Et verras les cratères de tes artères ressortir. Car on torture dans nos dortoirs. Et puis t'attire sans critère dans nos vestiaires pour se divertir. Inspecteur, reporter, auteur sectaire. Il est trop tard dans le secteur pour vos projecteurs. Routard, scooter, motard, conducteur. Comptent bien dicter leurs lois sur le terre-plein. Et vous faire taire, humanitaire, manquant d'humanité. On va les dynamiter, les matons, les menottés. Nantis à édenter, dans des salons de thé. Anéantis au pays de Tonton, moi je viens pour les dompter. On va monter les scies à mettons, nous les bantous. Car mater les moutons à ne battre, c'est un métier. Et ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Emblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, attaquer les verts kakis, saquer leurs locaux. Maquer les dents de maquis sans tricot illico. Braquer les marquis, friquer leurs acquis écus. Ils ont croqué, conquis leurs 40, traquant nos vécus. Nous, délinquants indiqués, au sol plaqué. Flanquons du boucan et déraclé à qui s'est moqué. Pas ex aequo, juste parqué dans ce fiasco. Confisquons whisky et pisson sur le cocorico. Ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Emblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Emblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, alors t'as suivi? Ça t'a plu? Hein? T'as vu ce style? T'as vu cette dextérité? T'as vu cette compétence? Ça, ça existe uniquement chez En Falche.
Vous êtes bien de retour sur Langue de Fronde, 106.3 FM sur FPP. Et donc, nous sommes toujours avec Alexia et Marianne de Langue de Lutte. Ça va être compliqué hein, de ne pas confondre Langue de Lutte et Langue de Fronde pendant la présentation de cette émission. Et donc, on parle toujours de l'écriture. Et du coup, peut-être vous voulez nous présenter comment se passe un atelier d'écriture, ce que vous faites concrètement dans un atelier.
Alors déjà, les ateliers sont indépendants les uns des autres. Donc, les personnes peuvent venir une fois ou plus ou à chaque fois. Enfin, c'est vraiment libre. Et pour chaque atelier, on choisit un thème, un peu comme vous. Et on essaye de l'aborder d'un point de vue féministe. Par exemple, le premier atelier, c'était la liberté. On a aussi fait un atelier sur le corps, avec plus particulièrement sur les poils. On a atelier sur les vêtements, la vie, la nourriture, les super-héroïnes. Enfin bon, on a pas tout dit, mais bon, voilà. On avait fait aussi une fois un atelier où on avait proposé de se réapproprier les contes, donc de réécrire des contes d'un point de vue féministe. On s'était pas mal inspiré d'ailleurs du spectacle Contes à rebours de Tiffany. Et on avait fait aussi un atelier avec un thème un peu plus large, c'était réappropriation, parce que c'était en lien avec une exposition qui s'appelait Réappropriation. Donc là, c'était carrément large, c'était réappropriation de l'espace public, du corps, des images de la femme, etc. Donc voilà, donc en gros, on a un thème général, on a des supports qui permettent de s'inspirer, mais aussi qui permettent de proposer des exercices. Donc on fait plusieurs exercices pendant l'atelier.
En gros, on fait à peu près 3 ou 4 exercices à chaque fois. Et on essaye de faire une progression pour que ce soit le plus facile, le plus accessible. Donc le premier exercice, il est court et il est très guidé. Donc on essaye de faire une consigne qui est un peu plus contraignante, mais qui permet justement de ne pas trop se poser de questions et de briser la glace entre la feuille blanche et son stylo. Donc voilà, c'est un peu un échauffement, un brise-glace qu'on fait au tout début. Ensuite, on propose un exercice où on va écrire plus longtemps, une vingtaine de minutes. Et là, donc, ça peut être terminer cette phrase, imaginer une situation, ou renverser-la, ou construire un personnage. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses. Et on finit avec un exercice hyper libre, où juste on lâche prise et on écrit un peu ce qu'on veut. Et c'est chouette parce qu'il y a des rebondissements et ça se lâche. Et au niveau de la forme, on essaye de pas trop contraindre, mais des fois, ça peut aider aussi. Donc, ça peut être de l'autofiction, écrire une lettre, écrire un discours militant. Voilà, c'est assez libre au niveau de la forme aussi.
Un exemple un peu des exercices courts que vous demandez au début?
Ça peut être, par exemple, on avait fait un atelier sur le pouvoir. Et je crois que c'était ça. Hein, je crois. En exercice, au départ, on avait dit compléter la phrase « j'ai le pouvoir de ». Donc c'était très rapide, hein, c'était 2 minutes. Voilà. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que c'est ça qui est bien dans les ateliers, c'est qu'on est ensemble, donc, parce que l'écriture, c'est très solitaire. Donc là, ce qu'on propose à chaque petit exercice, c'est de... Pour les personnes qui le veulent, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, c'est de partager ce qu'on a écrit. Et ce qu'on a instauré, parce qu'on est un peu des anciennes timides, donc on n'aime pas le truc anxiogène du tour de table. Oh mince, il ne reste que deux personnes avant moi. Donc du coup, on fait des lectures spontanées. Donc c'est un peu qui veut parle. Et du coup, c'est super sympa parce que comme ça, au début de l'atelier, il peut y avoir juste lecture de sa phrase. Et donc, on a plein de personnes qui, comme ça, prennent la parole, disent « j'ai le pouvoir de... » Je ne sais pas, là, j'ai plus l'idée.
Faire mes lacets.
Voilà, j'ai le pouvoir de dire non. Donc, c'est le type d'exercice, mais ça peut être... Ça peut être aussi... Parfois, puisqu'on essaye de varier les supports, on avait utilisé des BD... Donc des BD d'autrices féministes. Et on peut montrer une image et dire, compléter la bulle, imaginer ce que le personnage est en train de dire ou de penser. Enfin voilà. Mais on est toujours en train de rechercher de nouveaux exercices, donc il y a plein de choses possibles.
Ça permet peut-être, pendant que certains disent leur phrase, que d'autres qui n'ont toujours pas trouvé comment ouais. finir leur phrase. Et ils disent, ah oui, tiens.
Ouais, après, c'est vraiment pas dans la compétition, mais voilà, c'est plus... En général, il y a des personnes qui sont plus à l'aise, donc du coup, qui vont plus y aller. Et puis, c'est moins intimidant, du coup, de juste dire une phrase plutôt que tout d'un coup de déballer le texte que tu as écrit pendant un quart d'heure. Et qui, voilà.
Et ça, vous êtes à peu près combien à faire l'atelier?
On est une vingtaine. Ouais.
Ouais. Parce que, après, ça devient un peu. On est un peu. C'est un peu trop de monde. Et vu qu'on veut créer cet espace, justement, qui est propice à la libération de la parole et qui soit assez... Les personnes se sentent voilà, en sécurité, tout ça. C'est un bon nombre pour l'instant.
Est-ce que vous avez envie de nous lire un extrait de, enfin, d'un texte qui a été écrit pendant un de vos ateliers?
Oui.
La question pas préparée.
Voilà. C'est marrant.
Justement, on en a un sous les yeux.
C'est drôle. Voilà. Donc, en fait, on avait fait un atelier sur le thème des transformations. Donc, c'était un peu large comme thème. Et donc, il y avait une participante qui avait écrit ce texte, qui nous a donné l'autorisation de le lire. Donc, c'est un texte d'Isabelle Laurion et qui s'appelle « Transition ». Quand j'étais petite, on disait de moi que j'étais un garçon manqué. Je volais les petites voitures de mon cousin. Je me battais avec les garçons et je courais dans les bois avec une bande d'enfants sauvages dont j'étais la chef.
Quand j'ai eu 13 ans avec ma meilleure amie, on a piqué les chaussures à talons aiguilles de nos mères et on a marché jusqu'au bout de la rue en se tordant les pieds et en attrapant des fous rires.
Je n'ai plus jamais porté de talons.
Quand j'étais adolescente, les filles de ma classe ont commencé à se maquiller et à draguer les garçons.
Moi, j'étais un peu retardée. Je ne grandissais pas. Je continuais à jouer au foot avec les garçons dans la cour du collège.
Quand j'ai eu 20 ans, j'ai commencé à avoir un rapport compliqué avec les filles. Soit je tombais amoureuse d'elles et c'était des amours impossibles, soit je les méprisais parce qu'elles badaient les garçons.
Je me souviens d'un jour, au sortir d'une répète où je portais ma guitare en bandoulière, d'un guitariste suivi par sa petite amie qui portait sa guitare et le couvrait d'un regard admiratif et servile. Je les foudroyais du regard.
Quand j'ai eu 25 ans, j'ai décidé de transitionner pour séduire les filles. Ce serait plus facile d'être un garçon peut-être.
La testo, le troisième sexe, la provoque et la bagarre.
Les soirées dans les bars qui virent au cauchemar.
Je me battais avec mes poings pour défendre une identité floue dans laquelle moi-même j'étais perdue.
À Tahiti, en Thaïlande, chez les Indiens d'Amérique du Nord, le troisième sexe est respecté, voire vénéré, comme une manifestation spirituelle, créature des dieux.
Mais à Paris, c'est le parcours du combattant.
Le matin, je me lève, j'enfile mon blouson et mes Doc Martens, et je pars en guerre, dans la rue de la grande ville, porter l'étendard mauve des trans.
Je suis le samouraï androgyne du béton qui file entre les grandes tours à la vitesse de la lumière, se cacher dans les cavités, les terrains vagues où poussent les fleurs sauvages, par-delà les excroissances de la cité interdite, se dissimuler, se perdre, se chercher sans jamais se trouver.
Maintenant je séduis les filles, mais ce ne sont que des aventures furtives, et ma solitude a grandi. Mon amertume et ma déchirure ont ouvert une béance dans l'infini et l'inédit. Tous les jours le soleil se lève, et tous les jours comme Icare, je prends mon envol, et je retombe sur le pavé parisien comme un scarabée à l'envers, qui tricote de ses multiples pattes dans le vide.
Je me souviens parfois de la petite fille que j'étais, qui nageait dans la mer Méditerranée jusqu'à perdre haleine, jusqu'au bord de la noyade, qui voulait nager jusqu'en Afrique, traverser l'étendue d'eau, dépasser l'horizon et l'azur.
Maintenant, je ne suis plus une fille, ni vraiment un garçon.
J'ai toujours la rage et les larmes qui perlent aux paupières scintillent dans les nuits de Paris, où comme un chat, je me glisse dans les interstices entre la réalité insoutenable et les rêves qui ne se réalisent jamais.
Par-delà les nuages, une fille m'attend, je le sais. C'est une princesse de la rue déchue. Ses longs cheveux dorés pendent le long de la tour d'ivoire où elle est prisonnière. Et moi, je suis le chevalier qui la délivrera et l'emportera sur son destrier au royaume de l'amour infini.
Merci beaucoup pour la lecture de ce texte, qui est vraiment très beau. Et moi, ça me fait penser à une question sur laquelle on avait envie de revenir. C'est particulièrement, je pense, un texte qui doit être plus facile de produire dans un cadre de non-mixité. Oui. Vu les thèmes abordés, et que du coup, je pense que dans certains ateliers qui ne sont pas dans des non-mixités choisies, on peut se sentir plus restreinte à exprimer certains points de vue, certaines choses qu'on a envie de dire par peur du jugement.
Oui, non, c'est sûr. Bon, déjà, la non-mixité, c'est pas nouveau, et c'est vrai que dans tout système d'oppression, il y a besoin de ces espaces non-mixtes. Parce que voilà, c'est un besoin pour les personnes de se retrouver autour d'une expérience commune. Donc là, l'expérience commune, elle est double, puisque c'est l'écriture, mais c'est aussi le fait d'être dans une société patriarcale, voilà, et qui s'infiltre partout, même jusque dans les ateliers d'écriture. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire cet atelier en non-mixité queer et féministe choisie. Donc c'est un espace donc qui est ouvert aux personnes qui se définissent comme meufs, trans, non-binaires et ou queer. Voilà, c'est aussi une façon pour nous de véhiculer un féminisme inclusif et d'offrir cet espace à toutes ces personnes qui sont invisibilisées souvent et sur, dans les ateliers d'écriture y compris. Voilà, donc oui, c'est vraiment important de voilà cette non-mixité. C'est des lieux dont on a besoin et on est contente de pouvoir le faire.
Ouais, moi j'ai, enfin le fait d'avoir fait, alors j'ai pas participé à vos ateliers, mais j'en ai fait d'autres aussi en non-mixité féministe et du coup. Ça permettait, ce que tu disais, quoi, une libération de la parole, enfin un truc où déjà c'est compliqué le rapport à l'écriture, enfin et donc là le fait d'être dans un cadre, alors qui est pas de facto forcément bienveillant, etc. Mais en tout cas, bon, avec des gens qui ont des vécus un peu similaires, ou quand les organisatrices, organisateurs posent un truc de, bon, on va pas être dans le jugement ou alors dans un jugement. Positif, enfin, c'est-à-dire qu'on peut, alors vous c'est pas forcément ce que vous faites dans vos ateliers, mais on peut faire des retours sur les textes, etc., mais dans un truc bienveillant, et que en revanche le contenu du texte, c'est-à-dire l'histoire que les personnes elles ont envie d'écrire, enfin ça t'écrit vraiment ce que tu veux, quoi, et c'est génial d'avoir des espaces où ou en tout cas, alors t'es pas effrayée de poser tes mots, quoi.
Et ça reprend un peu la peur dont parlait le texte tout à l'heure, quoi. C'est vrai que souvent on peut avoir peur d'aller dans un atelier d'écriture, donc là l'idée c'est vraiment de faire un espace safe, et puis aussi comme dans tous les espaces on va dire féministes, c'est reposant parce qu'il n'y a pas besoin de faire de pédagogie de réexpliquer les choses, donc on part du principe que toutes les personnes qui sont là voilà, sont bienveillantes et sont vont pas commencer à sortir des choses sexistes ou avoir des réflexions qui pourraient être blessantes. Donc ça, c'est plutôt bien.
Et c'est le cas, du coup, vous avez... C'est votre retour dans tous les ateliers. Vous en avez fait combien déjà depuis le...
je crois que mercredi, ce sera le 17e.
Ouais.
17 ateliers. Et du coup, vous arrivez à créer en tout cas cette atmosphère et que ça se passe bien, quoi.
Ouais, je crois que le lieu aussi nous aide. Le fait que ce soit à la mutinerie, ouais. Que la mutinerie relaye sur ses réseaux, c'est comme une sorte de... Ouais, de... je sais pas...
Vu qu'on partage les valeurs de la mutinerie, on sait que ça correspond à ce qu'on veut véhiculer comme féminisme. Donc, on sait que les personnes qui viennent à la mutinerie ont à cœur les mêmes valeurs que nous. Donc c'est plutôt rassurant. Donc nous, ça se passe plutôt bien. Enfin après, on ne sait pas ce qui se passe après. Mais en gros, les personnes qui viennent sont plutôt contentes. Après, on va prendre un petit café après. Voilà, il y a des personnes qui reviennent. Il y en a d'autres qui nous disent « Ah bah non, je peux pas, mais j'aimerais bien revenir. » Enfin, on n'a plutôt que des expériences positives.
Et je pense que le cadre, en plus, bon, voilà, la non-mixité qui permet cette forme de lâcher prise, etc., c'est une chose. Mais comment vous voyez, vous, le fait de faire des ateliers, c'est se retrouver en collectif, quoi, même si c'est un collectif qui est juste pour quelques heures. Enfin, bon. Et donc, c'est la question en fait, de pourquoi c'est plus facile d'écrire dans un atelier que tout seul chez soi, quoi, en gros. Ce fameux truc de la page blanche et tout ça. Donc vous avez dit il y a des exercices, etc. Mais est-ce que le collectif en lui-même n'est pas aussi un moyen d'aider à ça, quoi ?
Si, carrément. Justement, vu que voilà, l'écriture, c'est très solitaire et ça peut être difficile, c'est bien d'équilibrer ça avec des moments où on se retrouve entre nous, avec d'autres personnes, je veux dire. Et d'ailleurs, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a créé cet atelier, parce que, comme disait Alexia, on n'est pas là pour faire des retours, etc. Nous, en fait, on participe à l'atelier, on écrit, on lit nos textes. On veut vraiment qu'il y ait il n'y a pas de rapport hiérarchique du tout. C'est vraiment horizontal, collaboratif, collectif. Nous, on est au même niveau que les autres. C'est juste qu'on propose des thèmes, on propose des textes, on propose des exercices. Mais à chaque fois, on répète que, bah, si t'as pas envie, tu veux écrire une lettre à ta mère, tu fais ce que tu veux. donc voilà, mais c'est vrai que le fait d'être ensemble, ça donne beaucoup de, de force. Hein, sisterhood is powerful. Je voulais le caser. Et puis, souvent aussi, d'entendre les textes des autres personnes, ça inspire beaucoup. Il y a deux, trois personnes qui nous ont dit « Ah oui, moi, ça m'inspire de venir parce qu'après, du coup, je repars et je vais retravailler toute seule. » Et ça, enfin voilà, j'ai entendu des choses qui m'ont donné des idées et tout ça. Donc, c'est aussi... c'est un espace où on se nourrit chacun, chacune, des autres.
Et vous aussi, donc vous écrivez chacune en solitaire. Et ça vous aussi, ça vous donne des ailes, ça fait une émulation aussi de faire ces ateliers pour continuer d'écrire ou comment vous l'incorporez aussi dans votre vie d'écrivaine.
Oui, mais je trouve aussi que la contrainte artistique volontaire, elle permet de faciliter l'imagination. On a l'impression que le cadre, ça restreint, mais c'est parfois le contraire. Et André Gide dit « L'art est toujours le résultat d'une contrainte ». Et je pense que c'est vraiment un moteur créatif d'avoir ces consignes-là, même si derrière, comme dit Marianne, oui, si t'es venu en tête d'écrire une lettre de vengeance, tu feras ce que tu veux. mais c'est vrai que ça aide, et j'ai l'impression que les personnes qui viennent, elles ont des attentes différentes et elles y trouvent un peu ce qu'elles cherchent. Ça peut être des personnes qui écrivent pour leur boulot, des comédiennes, ou d'autres qui prennent plutôt ça de façon thérapeutique et qui ont besoin de sortir quelque chose sur la table. Donc il y a des gens qui viennent par le biais de l'écriture et d'autres plus le féminisme, et tout le monde se retrouve quand même au milieu.
Pour ces histoires de cadre, nous, tout de suite, ça nous a aussi beaucoup renvoyé aussi à nous, notre propre pratique de faire de la radio, d'avoir ce cadre, d'être ici tous les mois et de devoir avoir un nouveau thème. Et c'était aussi une source comme... on avait la même chose, une source d'imagination et de création, et c'était important pour nous.
Moi, je voulais revenir rapidement sur ce que vous disiez sur la question d'avoir d'autres personnes qui écrivent et donc d'avoir des influences et des modèles, en fait, et l'importance de voir ce que font d'autres personnes et comment ça nous pousse à écrire. Et on a un texte un peu là-dessus qui est très, très beau, de Léonora Miano, qu'on voulait vous lire. Enfin, que Guybette va vous lire.
Oui, je vais vous lire le texte qui, effectivement, explique un peu... c'est un extrait du livre « Habiter la frontière ». Et qui explique un peu ce qui a poussé Léonora Miano à écrire. Il y a quelques années, je me suis essayée, assez pitoyablement, il faut bien le reconnaître, à la pratique du chant jazz. L'écoute d'un disque de Sarah Vaughan à l'âge de 14 ans m'avait totalement bouleversée, même si cet album est considéré comme mineur pour les connaisseurs. Dès lors, j'ai caressé en secret le rêve de devenir chanteuse. Mais je n'ai pu m'y mettre que sur le tard. Diverses petites expériences dans ce domaine m'ont amené à intégrer une classe d'improvisation où je n'ai livré que des prestations assez minables et où je n'ai fait que souffrir parce que je n'avais pas le niveau requis. Pourtant, je chéris aujourd'hui ce temps-là. Si Michel Hendrix, le professeur, n'a pas pu tirer grand-chose de moi en dépit de ses efforts, et si j'ai assez vite compris que ce rêve de chanter le jazz resterait sans doute un rêve, ce cours d'improvisation a changé ma vie. C'est là que j'ai trouvé mon esthétique d'auteur, ce qui manquait à mes textes, ma véritable spécificité. Le jazz m'a donné ma voix d'auteur. Bien des années après, j'ai chaque jour une pensée pour Madame Hendrix, dont la parole bienveillante me parvient encore. Je veux lui rendre hommage parce qu'elle fait partie des quelques personnes qui, sans en avoir conscience, m'ont empêché de me noyer. Au-delà de la pratique musicale qu'elle tentait très humblement de transmettre, elle cherchait à nous faire exprimer le meilleur de nous-mêmes. Elle croyait que chacun avait quelque chose de spécial à offrir, faisant de son mieux pour trouver cela et le valoriser. L'année de ma rencontre avec elle, j'ai écrit 3 livres d'affilée. Je les ai composés furieusement, sans avoir besoin d'y réfléchir. Ils n'étaient pas très bons, mais ils contenaient déjà beaucoup ce que je propose aujourd'hui. Ces textes de l'année 2003 étaient en quelque sorte des scories dont je devais me débarrasser pour enfin être capable de me redresser, de me réaliser. Ma vie en France avait été une existence d'épreuves. La classe de Michel Hendrix a fait plus pour moi que des années de thérapie. Il y en a encore à faire, mais cette femme m'a sauvée puisqu'elle m'a permis non pas de trouver ma voix, mais de pouvoir l'emprunter librement. Il est certainement rare d'affirmer qu'un professeur de chant a fait de vous un écrivain, mais c'est la vérité. Je n'ai pas trouvé mon écriture dans les cours de littérature de l'université, où elle aurait d'ailleurs pu se perdre, écrasée par trop de théories. C'est de la musique de jazz qu'elle a vraiment jailli.
Merci. Je vous propose qu'on écoute... une petite musique d'Anne Sylvestre, écrire pour ne pas mourir.
Mmh. je sois née d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Ne pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser, écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade, et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas
toujours sur Langue de Fronde et sur FPP 106.3 FM. Alors, on est toujours en train de parler d'écriture, à défaut d'écrire là tout de suite nous-mêmes. Et peut-être qu'on peut...
On écrit un peu, on inscrit quelque chose.
Oui, on inscrit quelque chose dans les ondes. C'est dans une écriture ondes. Radiophonique. On va peut-être vous lire un dernier petit extrait, après on arrêtera de vous faire des lectures. Un extrait du livre Les Argonautes de Maggie Nelson. Si Lucille, tu veux bien nous en lire un petit bout.
En même temps, tout ce que j'écris pourrait être lu comme une sorte de défense. Comme une valorisation affichée de cette chose incertaine que je suis, de ce point de vue incertain que j'ai à offrir, de tout ce que j'ai vécu. Tu en apprends tellement sur les gens dès qu'ils ouvrent la bouche. Tout de suite, tu pourrais savoir qu'il serait préférable pour toi de les garder à distance. Ça fait partie de l'épouvante de parler et d'écrire. Il n'y a nulle part où se cacher. Quand tu essaies de te cacher, le spectacle peut vite devenir grotesque. Ça m'intéresse d'offrir mon expérience et d'aller au bout de ma façon de penser spécifique, peu importe ce qu'elles valent. J'aimerais aussi aisément me déclarer coupable de l'abondance de mes privilèges, Sauf que l'idée de privilège comme étant quelque chose dont on pourrait facilement se déclarer coupable comme dans « se déclarer coupable et en avoir fini avec ça » est ridicule. Le privilège sature, le privilège structure. Mais jamais de ma vie, je n'ai été moins intéressée à défendre le bien fondé et encore moins la rectitude d'une position ou d'une orientation en particulier. Être traite à son propre règne, être traite à son propre sexe, à sa classe, à sa majorité, quelle autre raison d'écrire ? Et être traître à l'écriture. Peur de l'affirmation. Je suis toujours en train d'essayer de sortir du langage totalisant, c'est-à-dire du langage qui piétine effrontément la spécificité, avant de me rendre compte que c'est une autre forme de paranoïa. Pour sortir de ce manège, Barthes s'est efforcé de se rappeler que c'est le langage qui est assertif, non moi. C'est absurde, dit Barthes, d'essayer de fuir la nature affirmative du langage en ajoutant à chaque phrase quelques clausules d'incertitude comme si quoi que ce soit venu du langage pouvait faire trembler le langage. Mon écriture est parcourue de tels tics d'incertitude. Je n'ai pas d'excuses ni de solutions, à part de me permettre de tels tremblements, puis d'y retourner plus tard et de les raturer. De cette façon, je médite jusqu'à afficher une audace qui ne m'est ni naturelle ni étrangère. Parfois, cette démarche et tout son bagage genré m'épuise. Au cours des années, j'ai dû m'entraîner à supprimer les « je suis désolée » d'à peu près tous les emails professionnels que j'écris. Sinon, chacun pourrait commencer par « désolé pour le délai », « désolé pour la confusion », « désolé pour tout ce que tu veux ». Il suffit de lire les interviews de femmes exceptionnelles dans les magazines pour entendre leurs excuses. Mais je n'ai pas l'intention de dénigrer le pouvoir de la contrition. Je laisse mon désolé quand il est vraiment senti. Et bien sûr, il y a plusieurs orateurs chez qui j'aimerais entendre plus de tremblements, plus d'incertitudes, plus d'excuses.
Merci Lucille. On vous remettra toutes les références des textes qu'on a lus sur le blog. Et moi, ce texte, il me fait penser aussi à quelque chose, et tous les textes qu'on a lus globalement, c'est que si on peut les lire, c'est qu'ils ont été publiés, a priori. Et donc, je voulais vous poser une question sur l'importance, en fait. Alors vous, voilà, vous faites des ateliers d'écriture qui, a priori, sont surtout pour débloquer cette pratique de l'écriture. Mais, et c'est pas du tout pour dire que c'est l'étape d'après ou quoi, on peut très bien s'arrêter à juste écrire pour soi, et c'est très bien. Mais il y a également un enjeu, et un enjeu féministe et queer, à publier les textes, à les rendre publics, alors de différentes façons, que ce soit à travers des blogs ou vraiment à travers des maisons d'édition, dont aussi l'importance des maisons d'édition féministes. Et voilà, parce qu'on a besoin de lire en fait des textes qui nous parlent. Alors vous, dans votre atelier, est-ce que on peut lire les textes ou pas ?
Oui, c'est une question qui s'est très vite posée en atelier, parce que à l'écoute de certains textes, c'est évident qu'on a envie de les conserver ou de les réécouter. Il y a vraiment de belles choses qui sortent. Et donc nous, pour l'instant, on fait surtout l'organisation et l'animation de l'atelier et on y participe. Et on s'est vite rendu compte en essayant de créer un petit livret que créer un fanzine, c'est un autre job qui prend du temps. Et voilà, c'est pas évident de cumuler tout ça. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien faire des ponts avec peut-être d'autres collectifs qui, pour, je sais pas, échanger des textes, ou avec, il y a une personne qui avait proposé de faire des podcasts ou peut-être de les diffuser à la radio. Donc, on est hyper ouverte sur. C'est placé.
C'est des annonces.
Petite idée comme ça en passant. Non, je sais pas. On a un blog, donc on a un blog Medium. Et les personnes qui veulent nous envoient leurs textes rédigés ou les prennent en photo et on le publie. Et ça s'appelle Medium Langue de Lutte. Voilà.
Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, c'est assez frustrant parce qu'on aimerait pouvoir. On aimerait que d'autres personnes entendent certains textes qui sont lus lors de ces ateliers, qui sont vraiment, vraiment bien. Mais voilà, par faute de temps, d'organisation, on n'a pas le temps de se saisir de cette partie du travail. Le seul moyen qu'on a trouvé, c'est ce blog. Pour l'instant, il y a quelques textes. Il n'y en a pas autant que de textes qui sont lus. Mais de toute façon, voilà, c'est libre. C'est vraiment que les personnes qui ont envie qui nous l'envoient. On est toujours un peu en train d'y réfléchir, d'ailleurs, à trouver une façon de faire sortir les textes de l'atelier, justement, pour se réapproprier aussi l'espace de manière plus large, l'espace de la publication. Donc voilà, c'est ouvert, comme disait Alexia, si vous avez des idées.
Après, moi, je trouve qu'une des choses qui ressort du texte que Lucille a lu, donc de Maggie Nelson, les Argonautes, par rapport aussi à ce que vous dites sur la question de la publication, je trouve que dans ce texte aussi, beaucoup sur l'incertitude, c'est la question du travail qui est derrière et de la pratique régulière. Et là, elle parle de, des années, de travail sur soi pour enlever les désolés dans les mails, mais aussi plus largement de travail d'écriture autour d'incertitudes qui changent, qui sont mouvantes, et puis de reprendre des textes, en fait. Et j'imagine que dans la question de la publication, c'est aussi un rapport très différent à l'écriture, ne serait-ce que dans la temporalité que ça demande avant d'être publié, mais de retravailler quelque chose qui peut être sorti d'un premier jet, avec en tête cette question d'un public. Et je sais pas si ça... J'imagine que souvent, avec des codes de publication, il doit y avoir des modifications nécessaires, mais on n'est pas forcément envie d'avoir de faire ces modifs. Mais j'imagine qu'il y a aussi toute cette question du entre le premier jet et quelque chose qui serait publié, même sur un fanzine.
Ouais.
Quelles sont les étapes et puis les choses agréables ou moins agréables.
J'avais fréquenté un atelier d'écriture et l'animatrice, elle disait « écrire, c'est réécrire ». Et je pense qu'il y a ça vraiment de crucial, c'est que c'est super de lancer le premier jet et Langue de lutte, ça offre ça, un cadre pour sortir quelque chose. Mais c'est vrai qu'après, c'est bien de retravailler son texte et le blog permet ça justement parce que ça t'oblige à reprendre ton brouillon, à le retaper, à changer trois virgules, à te dire que tu vas le retravailler. Et retravailler un texte, c'est toujours pénible parce que c'est quand même vachement moins sexy que de le commencer.
Mais c'est plus laborieux.
Ouais, voilà, mais ça paye au final quand même.
Ouais, puis en général, du coup, c'est... On fait ça seul, après. On avait pensé un moment, peut-être étendre l'atelier pour faire un atelier où après on venait retravailler texte, mais bon, on n'a pas le temps. mais oui, il y a vraiment une différence entre l'écriture, on va dire, spontanée qu'on offre dans l'espace langue de lutte et après tout le travail vers la publication. Là, personnellement, on est un petit peu moins formés sur ça, mais oui, enfin, ça serait vraiment, je pense, important de pouvoir encourager plus de publications féministes et queer.
Oui, il y a un atelier, enfin, c'est pas vraiment un atelier, c'est un groupe de personnes qui s'appelle l'atelier de l'Antémonde qui ont écrit il y a pas très longtemps, ils sont à plusieurs, c'est un collectif qui ont écrit un texte, enfin, des nouvelles qui se veulent justement queer et féministes. Qui retravaille aussi un peu les codes justement des genres. Et ça, c'est aussi pour se donner des idées, pour se donner la parole, pour essayer de recréer un monde. Donc l'idée, c'est un petit peu de se projeter à 10 ans après une révolution anticapitaliste. Et du coup, il y a tout ce travail d'essayer de qu'est-ce que ça pourrait être fait. Et là, c'est un travail d'écriture collective, donc je pense que c'est une tâche assez ardue d'écrire à plusieurs mains. Donc, en plus, les personnes habitent pas au même endroit, donc ils ont dû vraiment travailler beaucoup et voilà, et ils continuent en plus le travail, donc je trouve ça assez intéressant, par des labos fiction justement auxquels j'ai participé, Olga a participé, Chloé aussi, où on nous demandait essayez-vous d'imaginer quel sera votre futur dans 10 ans après une telle révolution et ouais, d'essayer, et l'idée c'est un peu de construire ensemble que ça continue et après ils poursuivaient ça, ils et elles poursuivaient ça par vraiment un atelier véritable d'écriture pour justement essayer de mettre ça en forme, et je pense que c'était assez... c'est assez formateur.
Ce qui est important aussi, ce que tu as dit, c'est la façon dont c'est fait, c'est-à-dire écrit collectivement, mais aussi le fait que ça part de quelque chose d'un peu DIY, d'un groupe de 3 personnes qui se disent « Allez, venez, on va écrire des trucs », peut-être un peu comme votre démarche au départ. Et ça finit par une publication, donc c'est quand même important que ces textes ils soient publiés. C'est aussi possible parce qu'il y a des gens qui font un travail énorme. Bon, voilà, là, c'est publié aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière, donc qui est une collection qui fait tout un travail d'édition très important. Mais il y en a d'autres, des plus nouvelles comme Hystérique et Associés, qui vont aussi beaucoup travailler sur... sur les traductions, en fait, de rendre accessibles des textes qui, pour les traduire. Enfin, donc, Cambourakis fait ça aussi. Donc, voilà, c'est toute la question de... aussi. Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, bon, il y a d'autres moyens, des fanzines, des blogs, la radio. Mais la question de publier d'une façon ou d'une autre, de rendre public ces textes-là.
Et vous, Alexia et Marianne, est-ce que vous avez en cours des exercices de publication ? Est-ce que ce que vous écrivez, vous avez eu envie ou vous avez dans le futur envie de publier quelque chose ?
Moi, en ce moment, j'ai un projet où justement, en fait, à partir du constat de cette parole qui est différente en non-mixité, En fait, je réalise des entretiens, des interviews, des groupes de discussion sur le thème de la sexualité, de la vulve, de la parentalité pour les femmes. Donc, je suis en train de constituer un recueil de témoignages et je fais de la retranscription de, voilà, de ces espèces de discussions qui sont un peu hybrides avec des exercices d'écriture et voilà et un enregistreur de voix au milieu de la table et beaucoup de gâteaux au chocolat. voilà, ce qui me permet d'interviewer ce que j'appelle les vulves anonymes. Voilà.
On aime beaucoup le titre.
S'il y a des éditrices qui traînent sur les ondes, c'est...
Oui.
Elles peuvent vous contacter.
Au 06.
Tu peux donner ton numéro sur les ondes, mais moi, après, je désengage.
Alors moi, j'écris depuis toujours et pour l'instant, je n'ai pas publié parce que... j'ai pas vraiment eu le temps. Et d'ailleurs, je rebondis un peu sur ce qu'on disait avant. C'est vrai que tout ce travail qui se passe après, cette spontanéité de l'écriture, c'est un travail qui demande du temps. Et le temps, c'est aussi de l'argent. Et c'est vrai que les femmes, enfin, je parle des femmes au sens large, on a pas forcément souvent beaucoup de temps. Et je pense que c'est aussi une conséquence du système dans lequel on vit, quoi. Et donc, je n'ai pas encore publié, mais j'écris, j'ai des projets en cours, et j'ai aussi fait une traduction d'une pièce de stand-up féministe d'une autrice anglaise qui s'appelle Claire Dawy, et qui a écrit « Why is John Lennon wearing a skirt ?» que j'ai traduit par « John Lennon porte une jupe », et qui interroge beaucoup de thèmes féministe, sur le genre, la sexualité, enfin, c'est vraiment intéressant comme texte, et donc j'essaye de de publier ma traduction, voilà.
Et ben on donnera sur notre blog les coordonnées.
À bonne entendeuse.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'être venue avec nous pour parler, c'est déjà la fin, on aimerait rester encore longtemps. Mais du coup, on redonnera sur notre blog toutes les coordonnées pour vous joindre. Il y a un atelier ce mercredi à 14h30 à la Mutinerie, il reste quelques places. Donc si vous voulez participer à ce super atelier de langue de lutte, allez-y. Et nous, donc on vous rappelle, le blog c'est languedefronde.noblog.org. Et donc là, on va vous laisser avec une musique de fin, Queen Suzy, Noma. Et on vous laisse avec l'écho de la Palestine, la prochaine émission sur FPP. Merci beaucoup.
Et puis on continuera à traduire, écrire, prendre la parole, prendre les ombres et tout ça.
Salut tout le monde.
Au revoir, à bientôt.
Merci. Merci.
Exaggerate the waste, comme ça. Recite the place, comme ça. Pas voilà.